Radio Okapi.
Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, situation encore préoccupante dans les territoires de Kalehe au sud Kivu après la catastrophe naturelle qui a coûté la vie à plus de 400 personnes. Alors que d'autres corps sont découverts dans les décombres, les sinistrés appellent à l'aide d'urgence. Réaction du coordonnateur de Congo Action pour une diplomatie agissante à l'annonce de l'envoi imminent d'un contingent de la SADC dans l'est de la RDC. Eric Kamba attire l'attention du gouvernement congolais pour que les forces de la SADC ne tombent pas dans les travers de celles de l'EAC. Notre invité, c'est le président du conseil d'administration de l'ONG Maïcha Bora, Kwaote, une ONG qui vient de réaliser récemment la cartographie participative dans 5 groupements de Kasongo, Pangui et Kailo au Maniema. Blaise Bilembo parlait de la foresterie communautaire. Madame, messieurs, bonsoir. Au sud Kivu, la situation reste encore préoccupante dans les territoires de Kalehe, une semaine après la catastrophe naturelle qui a coûté la vie à plus de 400 personnes. Des corps sans vie sont encore découverts dans les décombres. Les sinistrés qui ont tout perdu appellent à l'aide. Un homme d'une trentaine d'années a vu s'écrouler les membres de sa famille. Il s'est confié à Emmanuel Elemejo Kabedi.
Oui, c'était le jeudi soir. La pluie a commencé et j'ai vu l'eau entrer dans ma maison. Ma femme était au marché avec un enfant. J'ai pris les 4 autres enfants, je les ai mis au-dessus du lit. Mais comme la maison était en train d'inonder, j'ai pris un enfant au dos, l'autre sur le cou et 2 autres par les mains. Comme je voulais traverser la rivière, elle aussi inondée, un enfant qui était à la main a coulé et a crié, « Mon papa, moi je meurs, me fais tout pour traverser avec les autres. » À un certain niveau, l'autre enfant qui était à la main est aussi emporté par les eaux, il a crié aussi. Celui qui était accroché au cou a aussi paniqué quand il a vu les autres couler, il est aussi tombé et parti. En voulant traverser, celui qui était resté au dos est aussi tombé également. Je me suis forcé pour arriver sur la colline sans enfant et j'ai continué à regarder combien de personnes coulaient dans l'eau en train de crier. Retenez Kanyamukubi, c'est beaucoup, c'est plusieurs personnes qui sont mortes, même les passagers. D'ailleurs, même certaines personnes venues de Kinshasa sont mortes ici à Nyamukubi.
Et pour éviter le pire, les sinistrés de la catastrophe de Kalehe nécessitent une délocalisation imminente. Sur place à Nyamukubi et à Bouchouchou, près de 200 ménages ont échangé hier mardi avec la délégation du gouvernement central qui a séjourné dans la zone. Quelles sont les dispositions prises quant à ce? La réponse dans ce reportage d'Emmanuel Elamejou Kabedi qui revient de Kalehe.
C'est pour la énième fois que telle catastrophe naturelle fait des dégâts humains dans la zone de Kalehe. Cette zone impropre à la construction doit être vidée et les populations délocalisées. Certains d'entre les sinistrés sont eux-mêmes conscients de cette situation. Ici, nous sommes très affligés comme nous avons perdu beaucoup des nôtres. Tout ce que nous demandons, c'est d'être délocalisés. Nous ne pouvons pas attendre longtemps pour que le gouvernement puisse nous délocaliser. Pour nous, c'est vous qui pouvez plaider pour nous afin que nous puissions être délocalisés parce que, avec cette situation, il n'y a personne qui peut accepter de continuer à vivre ici.
La chefferie de Bouavou à Kalehe propose un site public pouvant accueillir quelques habitants dans son entité. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de la délocalisation des sinistrés dans le bref délai. Théo Ngwabidje Kasi.
C'est une question prioritaire et urgente. Nous allons rapidement d'abord regarder les sites qui sont proposés pour évaluer les sites et que nous puissions déplacer les populations d'une façon provisoire. On va le faire rapidement. Il y a aussi des discussions que je vais mener avec les propriétaires terriens sur place ici pour que nous puissions trouver maintenant les sites où on peut délocaliser la population d'une façon définitive.
Cette fois-ci, toutes les voix s'élèvent pour que cette délocalisation soit urgente et même obligatoire. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Autre région, autre drame. Au nord Kivu voisin, le bilan du glissement de terrain survenu récemment à Rubaya est revu à la baisse selon la délégation gouvernementale qui a séjourné dans la zone, alors que le porte-parole du gouverneur de province parlait de 6 creuseurs artisanaux décédés. Le bilan définitif fait état d'un mort et de 3 personnes grièvement blessées. Les sinistrés appellent à l'aide. Pour l'instant, le périmètre de la SMB est fermé sur instruction du ministre national des Mines, Denise Lukeso.
Contrairement aux informations distillées dans l'opinion, le bilan de cet incident est d'un mort et trois blessés, dont un gravement et est admis dans une structure sanitaire, confirmation du porte-parole du gouverneur après le retour de la délégation. Sur place, l'administrateur des territoires de Massissi, qui conduisait la délégation, parlait d'un constat amer de voir que la mesure de fermeture de ces sites prise par le ministre national des Mines n'est pas exécutée. Colonel Etina Boukengi Christophe.
Le constat est vraiment amer, dans le sens que il y a eu d'abord une instruction de la haute hiérarchie qui avait instruit que ce périmètre doit être fermé. Et cette instruction a été diffusée aussi par monsieur le gouverneur. Nous venons de constater ici qu'il y a des gens qui se sont permis d'y accéder. Ils sont en train d'exploiter dans ces périmètres. Alors il y a eu un incident malheureux. Et il y a eu un mort et deux blessés.
L'autorité provinciale déclare renforcer les dispositifs sécuritaires dans ces sites pour faire respecter la mesure de la ministre. Dans un communiqué hier, la SMB s'est dit préoccupée par cet accident mortel dans son périmètre. Elle demande au gouvernement de diligenter une enquête pour établir les responsabilités dans l'organisation de cette exploitation illicite et déférer les coupables devant les instances judiciaires compétentes. Goma, Denis Bukesso, Radio Okapi.
Et dans la topo, les déplacés qui se trouvent actuellement sur les sites de la commune de Kisangani passent des moments extrêmement difficiles. Des cas de maladies sont signalés parmi eux, notamment la rougeole chez les enfants, la diarrhée et le paludisme. En attendant de regagner leur terroir respectif, ils sollicitent l'aide en nourriture et d'autres biens matériels. Les autorités locales et leurs principaux partenaires techniques et financiers s'activent à répondre à leurs besoins. À Kisangani, la correspondance de Jacques Mukonkole.
Au bureau communal de Kisangani, ces déplacés passent la nuit à la belle étoile. Hommes, femmes et enfants sont ainsi exposés aux intempéries. Ils affirment avoir reçu une assistance en vivres du gouverneur de province, de la mairie, de la commune ainsi que de quelques églises. Toutefois, les besoins restent énormes, comme le déclare Franck Misomato, l'un d'eux.
Nous avons besoin des marmites, des assiettes là suffisantes. Nous avons besoin des matelas. Nous avons besoin des gobelets. Nous avons besoin aussi de nourriture. Nous demandons aussi des médicaments parce que il y a tant de maladies.
Afin de faire face aux multiples besoins des sinistrés, tant des inondations que du conflit intercommunautaire, la gouverneure de province, Madeleine Nikomba, tend la main aux partenaires. Pour ces derniers, un plan de besoins s'avère nécessaire en vue de leur intervention. Mokhtar Khan, chef de bureau UNICEF Kisangani.
Les partenaires vont se positionner sur ce que les autorités vont faire. Je pense que dans les jours, dans les semaines qui viennent, il y aura déjà une mission qui va partir sur le terrain avec la division des affaires humanitaires qui va nous présenter un état des besoins sur la base d'une évaluation qui va être faite sur le terrain. C'est sur cette base que les partenaires vont pouvoir se positionner sur les secteurs prioritaires.
Le souhait de se déplacer est de voir des autorités rétablir rapidement le calme dans leur milieu afin qu'ils y retournent pour vaquer paisiblement à leurs occupations habituelles. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis dans l'Équateur, le ministre provincial de la Santé publique plaide pour l'éradication urgente de l'épidémie du monkeypox ou variole de singe dans 18 zones de santé de la province depuis janvier dernier et dont l'épicentre se trouve à Bolomba. Le bilan fait état de 58 décès sur 700 cas documentés. Au vu de l'ampleur de la situation, la province de l'Équateur sollicite urgentement un appui du gouvernement central. Radio Kapimbandaka, Paul-Richard Malengela.
Le ministre provincial de la Santé Équateur affirme que la province fait face à une épidémie de monkeypox depuis janvier dernier. Les premiers cas ont été notifiés par la zone de santé de Bolomba, frontalière au territoire de Befale dans la Tuapa, où la maladie est très répandue. Aujourd'hui, toutes les 18 zones de santé de l'Équateur sont également touchées. Le ministre Luc Dudembou l'a fait le bilan.
Nous sommes en train d'enregistrer le cumul d'au moins 726 cas suspects de monkeypox notifiés par les zones de santé de la province de l'Équateur, dont ces cas décès de personnes atteintes de monkeypox.
Depuis plus de 4 mois, l'Équateur se bat timidement pour la prise en charge des cas avec l'appui de l'OMS. Mais au regard de l'ampleur de la maladie, le docteur Mboul a fait un plaidoyer auprès du gouvernement central pour l'implantation du programme de lutte contre le monkeypox et l'envoi des experts avec des médicaments.
C'est ainsi que vu l'ampleur de la situation, nous sommes en train de faire le plaidoyer au niveau national et de partenaires techniques et financiers de venir nous secourir pour cette situation. Et nous allons faire l'effort à ce que le programme spécifique à cette maladie puisse exister. Ça va nous permettre à ce que nous puissions combattre cette maladie qui frappe l'Équateur.
En guise de prévention, le ministre invite la population à éviter la consommation des gibiers trouvés morts ou malades dans la forêt. Bondaka, prochain Malengela, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, forte de son histoire partagée de plus de 5 millions d'habitants, de ses 450 groupes ethniques, de 221 langues parlées dans les 26 provinces. La RDC a, j'en suis convaincu, tous les atouts nécessaires pour faire de son unité et de sa diversité culturelle une puissante force d'attraction et d'influence en Afrique et au-delà. Déclaration faite hier à Kinshasa par l'ambassadeur de l'Union européenne lorsque il célébrait la fête de cette organisation. Parlant justement de la RDC, Jean-Marc Châtaignier a rappelé le soutien de l'Union européenne à la souveraineté, à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale de la RDC. Le compte-rendu d'Honoré Missenga Kalala.
Le 9 mai de chaque année, l'Europe célèbre la paix et l'unité de l'Europe, a indiqué l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier, rappelant que c'est la date de l'anniversaire de la déclaration historique en 1950, où Robert Schuman exposait l'idée d'une nouvelle forme de coopération politique en Europe, coopération qui rendrait impossible la guerre entre les nations du continent. À propos de la RDC, le diplomate européen a reconnu l'évidence de la grandeur du pays en tant que nation. Il a aussi salué le partenariat de confiance que les Congolais ont bien voulu construire avec l'Europe depuis plus de 60 ans, dans des moments, a-t-il souligné, parfois difficiles et complexes, mais sans jamais casser le fil de notre dialogue. La souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne peuvent faire l'objet d'aucune discussion ou débat, encore moins s'offrir la perspective d'un quelconque compromis, a martelé Jean-Marc Châtaignier. Ainsi, l'Union européenne appelle tous les groupes armés qui sévissent illégalement dans l'est de la RDC à déposer immédiatement et sans condition les armes et à se démobiliser, a déclaré son ambassadeur à Kinshasa. Jean-Marc Châtaignier a particulièrement appelé le M23 et toutes les parties concernées à mettre en œuvre de bonne foi et respecter les dispositions de la feuille de route de Luanda.
Merci Honoré Missenga Kalala pour ces précisions. Réaction à Kinshasa de Congo Action pour une diplomatie agissante après l'annonce de l'arrivée prochaine d'un contingent de la SADC dans l'est de la RDC. Dans un communiqué, le coordonnateur de cet ASBL recommande vivement la prudence au président Félix Tshisekedi. Eric Kamba attire également l'attention du gouvernement congolais pour que les forces de l'EAC qui arrivent bientôt ne tombent pas dans les travers de celles de l'EAC. Il est au micro dans l'Airungu Mushiji.
Aujourd'hui, la RDC vient de tendre sa main à la communauté de développement de l'Afrique australe, aussi appelée SADC, pour obtenir de l'aide dans le rétablissement de la paix à l'est du pays, vu l'échec enregistré par les forces de la communauté d'Afrique de l'Est. Que faudrait-il donc attendre de la SADC? Ce que nous disons à Kada est que la République démocratique du Congo ne doit pas déshabiller la communauté d'Afrique de l'Est pour habiller la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. En revanche, c'est que la RDC doit faire. L'armée congolaise a besoin de moyens pouvant être mis à sa disposition pour bien remplir ses missions. Mais cela ne peut se faire qu'après l'avoir repensé. Donc, il faut la réforme de l'armée. Cette réforme permettra de lui y assigner uniquement des missions d'intérêt général qui seront assurées avec patriotisme, professionnalisme et dévouement. Les grands efforts doivent être entrepris pour moderniser l'armée, les services de l'ordre et les services de sécurité, afin de défendre l'intégrité territoriale, protéger les personnes et leurs biens.
On enchaîne avec le Kwango où le responsable de la coopérative d'épargne et de crédit dénommé Grâce Divine Luzingu qui avait disparu au mois de mars dernier avec l'argent de 1000 épargnants a été arrêté samedi dernier à Kenge. Il a été déféré tout de suite au parquet général sur base de la plainte d'une victime. Le chargé des renseignements de la police affirme que ce malfrat sera transféré à Bandunduville pour y être jugé. Le colonel Mokobi Mobongo a été joint par Irene Mboma.
Il s'agit de Monsieur Jérémy Etoi. Il a été arrêté ici à Kenge sur plainte de l'un de ceux qui étaient avec lui à Bandundu. Arrêté par la police criminelle, il a été déféré au parquet de grande instance et le procureur public a confirmé l'information. Il a été arrêté pour avoir détourné l'argent là où il travaillait avec la firme à Bandundu. Il s'est retrouvé ici. L'une des victimes l'a vu ici et a saisi la police. Saisi la police a mis la main sur lui et l'a déféré au parquet. Les nouvelles que j'ai reçu de la police criminelle, c'est que après son arrestation, il y a le parquet général de Bandundu qui aurait demandé au parquet d'ici de se saisir du dossier. Donc je crois que la collaboration entre le parquet des deux provinces évolue dans le sens de coopérer pour bien saisir le dossier et le traiter.
Est-ce que c'est pour obtenir son transfert à Bandundu?
Éventuellement. Je crois que ça ne poserait pas problème si le procureur général de Bandundu solliciterait pour ici, et je crois que ça va se faire.
À Bandunduville, plusieurs victimes de ces détournements d'argent saluent l'arrestation de ce malfrat. Autre nouvelle sur Radio Okapi, coup d'envoi lundi dernier au Lomami des travaux d'entretien d'une partie de la route nationale numéro 2 qui va de Kabinda à Kumba. Le directeur de l'office de route parle du réprofilage rapide, de la purge des bourbiers et de la création de rétention des eaux sur les points chauds en l'espace de 6 mois. Ces travaux seront financés par le FONER à hauteur de $500,000. Dans quel état se trouve ce tronçon routier qui va de Kabinda à Kumba, localité du territoire de Katanda au Kasaï central? La réponse avec vous, Esther Ndalafina.
L'axe Kabinda Nkumba est dans un état de délabrement très avancé. D'après les usagers de cette route, plusieurs têtes de ravin progressent au point de couper la voie routière. Le passage de tout engin roulant devient de plus en plus impossible. Un conducteur de véhicule décrit l'état de cette route.
Il y a des mauvais endroits, surtout à partir de Vunaï jusqu'à Kabinda. Il y a beaucoup de trous, des endroits coupés. Les petits et les gros véhicules passent difficilement sur cette route.
C'est depuis la semaine dernière que l'office des routes a obtenu les fonds pour l'entretien du tronçon Kabinda-Nkumba. Les travaux ont débuté ce lundi. Benjamin Djima, directeur provincial de l'office des routes.
On va faire le réprofilage rapide, on va faire le réprofilage avec apport de matériaux et la construction de quelques mètres linéaires de fossés maçonnés dans des pentes difficiles.
Signalons que plusieurs études ont déjà été effectuées pour la réhabilitation et la modernisation de cette route, mais le financement se fait toujours attendre. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, les habitants de l'État du Sud Darfour craignent actuellement que les combats entre l'armée nationale et les forces de soutien rapide ne ravivent le conflit dans cette vaste région désertique, une région qui a déjà goûté à l'amertume de la guerre au cours des 2 dernières décennies. Et puis en Tunisie, 2 fidèles qui participaient aujourd'hui à un pèlerinage juif dans la synagogue de Griba sur l'île de Djerba dans l'est du pays ont été tué mardi soir par un ancien gendarme qui a tué également 2 de ses compagnons d'armes avant d'être abattu, a annoncé le ministère de l'Intérieur.
L'invité.
Notre invité, c'est le président du conseil d'administration de Maïcha Bora, Kwaote, une ONG qui vient de réaliser la cartographie participative dans 5 groupements des territoires de Kasongo, Pangui et Kailo au Maniema. Blaise Bilembo parle de l'importance de la foresterie communautaire. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Monsieur Blaise Bilembo, bonjour.
Bonjour madame.
Votre ONG, Maïcha Bora Kwaote, vient de clôturer les activités du projet de réalisation de la cartographie participative dans 5 groupements de territoires de Kasongo, Pangui et Kailo. Que peut-on retenir de ces projets?
Ok, ce projet, il a été soutenu financièrement par la coopération allemande à travers la GIZ qui met en œuvre en République démocratique du Congo les programmes de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts, avec aussi les cofinancements de l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale CAFI au travers de la gestion de la FONARED. Le projet nous a été accordé d'accompagner la population, de vérifier la délimitation de façon participative d'abord des forêts de ces groupements et aussi élaborer les cartes des limites de ces forêts, de ces groupements et les cartes des concessions qu'elles demandent, les concessions à concéder. Il faudrait noter que ce travail a été fait et aujourd'hui, toutes ces communautés ont leurs cartes des groupements et des concessions.
À quoi leur serviront ces cartes?
Les cartes, au fait, c'est un élément. Et l'objectif, c'est avoir la concession forestière de la communauté locale. Et pour avoir cette concession, il faut avoir la carte qui démontre quelles sont les limites que vous avez avec les voisins. Et si vous avez des conflits, où on peut localiser ces conflits dans ces cartes-là, c'est ce qui permet à l'autorité de signer un arrêté octroyant une concession forestière à ces communautés-là qui ont demandé.
Cette concession forestière de la communauté locale a quelle importance ?
Concession forestière de la communauté locale a beaucoup d'importance. On peut citer quelques-unes ici. Par exemple, la sécurisation foncière. Parce qu'on ne peut plus vendre là où il y a un arrêté pour la concession de la communauté. Et deuxième importance, ça réduit aussi la pauvreté. Parce que la concession bien gérée, c'est aussi un levier de développement au niveau local. Ça assure la gestion durable des forêts. Parce qu'il y aura les terres, les forêts qui seront réparties et gérées d'une façon durable. Ça contribue aussi à la cohésion sociale. Les villages qui ne travaillaient pas ensemble jadis, mais ils auront un objectif d'ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Et aussi, ça améliore la gouvernance forestière. On ne peut plus couper les arbres comme on les coupait. C'est tout le monde qui veille contre les intrus. C'est tout le monde qui a l'œil ouvert sur cette concession. Parce que ça devient la concession de la communauté.
Et ici, chez nous, dans la province d'Imanema, il y a combien de concessions forestières?
Ici, dans la province d'Imanema, nous en avons 15 aujourd'hui. Ces 15 concessions, beaucoup d'entre elles, je dirais, elles souffrent encore de la mise en œuvre et des réalisations des projets sociaux. Parce qu'il y a des projets sociaux qui doivent accompagner. Après avoir octroyé à la communauté une concession forestière, il faudrait maintenant aussi l'appuyer au financement des projets sociaux.
Est-ce que ici chez nous au Manima, le processus de la foresterie connaît quelques obstacles?
Oh oui, comme partout en République démocratique du Congo, il y a des obstacles. Bon, il faudrait commencer à dire que l'octroi, il est gratuit et perpétuel à 50 000 hectares, pas au plus, donc moins de 50 000, qu'on donne d'une façon gratuite et perpétuelle. Mais le plus grand obstacle, c'est d'abord la complexité technique qui regorge la foresterie communautaire. Ça demande, ça entraîne beaucoup de moyens, que ces moyens-là, la communauté n'en a pas, et ce qui ne donne pas l'appropriation complète de ces concessions aux communautés.
Mais qui va aider cette communauté qui n'a pas de moyens?
Les plus grands problèmes, c'est d'abord la vulgarisation. Il faudrait que la population comprenne c'est quoi la foresterie communautaire. Il y a aussi un plus grand problème, c'est la compréhension des leaders. Il y a des leaders communautaires qui ne comprennent pas c'est quoi la foresterie et ils expliquent à tour et à travers l'objectif de la foresterie, et ce qui met un blocage, un obstacle aussi pour la foresterie communautaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser davantage la communauté sur la foresterie communautaire.
Alors, quels sont les défis de la foresterie communautaire dans les maniements et en République en général?
Les plus grands défis, c'est d'abord l'appropriation communautaire. Dit à la faible vulgarisation des lois en matière, il y a aussi les faibles pourcentages des concessions forestières en République démocratique du Congo. Et aussi, il faudrait chercher des voies et moyens, réduire et rendre simple le fonctionnement des foresteries communautaires pour que ça fonctionne d'une façon autonome. Il y a aussi un grand défi, c'est d'organiser la communauté en vue de l'efficacité de cette foresterie communautaire.
Monsieur Blaise Bilembo, merci.
Je vous remercie aussi, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président du conseil d'administration de l'ONG Maisha Borakwa Wetu. Blaise Bilembo a été interrogé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui m'a accompagné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.